roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi ? Sur Radio Duo, une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. C'est la 16e émission de Qui ou quoi, et ça fait donc 16 fois que je dis en intro que je vais vous parler de livres pour enfants ou de guides de voyage. C'est vrai que j'ai réussi à placer au moins une BD à chaque émission, quelques romans par-ci par-là, des documentaires aussi, mais que des documentaires de musique et un truc pour apprendre à faire caca dans les bois. Bref, j'ai un peu de mal à tenir ma feuille de route. Et ben en fait, c'est pas aujourd'hui que ça va changer, puisque ce soir je vous parle de super-héros, de cinéma asiatique et d'artistes japonais. C'est parti. Alors, en ces temps troublés où un film de super-héros sort à peu près tous les 3 mois dans le monde, il était temps que je rajoute ma pierre à l'édifice en vous parlant de super-héros. Donc ce soir, je vais vous parler de My Hero Academia de Kohei Horikoshi, un manga qui parle, je vous le donne en mille, de super-héros. Si je vous en parle, c'est pour deux raisons bien précises. La première, c'est que j'ai découvert récemment un podcast sur internet qui s'appelle La 5ème de couve, et comme je ne suis absolument pas jaloux de la concurrence, bien au contraire, je me suis abonné à leur truc, et c'est un podcast qui parle de l'actualité manga BD, et justement, dans un de leurs derniers épisodes, ils ont parlé en long, en large et en travers de My Hero Academia, jusqu'à réussir à éveiller ma curiosité. Et puis, il y a deux jeunes garçons qui me sont très chers, qui m'en parlent régulièrement depuis la sortie du premier tome. Et je leur avais dit que je le lirais pour pouvoir en parler avec eux, mieux, je leur ai dit que si ça se trouve, j'en parlerai dans qui ou quoi. Alors ça y est, j'ai lu les 13 premiers tomes, et donc je vous en parle aujourd'hui. My Hero Academia se déroule dans un monde où tout le monde a des pouvoirs, sauf quelques personnes. Un peu le contre-pied du monde Marvel, où seuls quelques élus ont des pouvoirs. Dans ce monde, les super-héros travaillent main dans la main avec les forces de l'ordre pour combattre les méchants. Et il y a même des écoles pour devenir un bon super-héros, une académie. My Hero Academia raconte donc l'histoire de Izuku Midoriya, qui justement n'a pas de pouvoir, mais qui rêve de pouvoir être un super-héros. Sa rencontre avec All Might, le plus puissant des super-héros du monde, au détour d'une altercation avec un super méchant, va changer sa vie. Pour bien vous parler de My Hero Academia, il faut savoir que c'est un shonen. Et un shonen, qu'est-ce que c'est ? C'est un type de manga bien précis. Donc, pour le besoin de cette émission, je vais en profiter et vous faire une petite topologie des mangas. En fait, toute la production de manga est segmentée en fonction du public cible. À chaque public, son type de manga, avec son type d'histoire, ses codes et tout ça. Un peu comme les films de genre et ses étapes obligées, etc. etc. C'est un peu un public, une histoire, toujours la même, même si on varie quand même un peu. Bon, moi je trouve ça un peu déprimant, mais c'est comme ça. Alors, les types de mangas les plus importants, ce sont les shonen, type de manga qui est destiné aux garçons adolescents. Il y a aussi les shoujo, qui sont pendant féminin. Et puis pour les adultes, on parle de seinen. Ensuite, il y en a plein d'autres, les mangas homosexuels masculins, les mangas homosexuels féminins, les érotiques tout court, et j'en passe et des meilleurs, je suis pas non plus un spécialiste. My Hero Academia, c'est un shonen. Donc on est sur une cible plutôt masculine adolescente au Japon. Et je dis bien au Japon parce que je suis pas sûr que ces catégories s'appliquent de manière similaire en France, mais bon. Après, justement, dans cette histoire de description, je vais aller encore plus loin parce que j'ai appris plein d'autres mots en préparant l'émission. Donc, My Hero Academia, c'est un shonen neketsu. Et neketsu, en fait, ça veut dire enfin ça désigne un cadenas, un cadre à l'histoire. Et je vais vous lire un peu ce que la fiche Wikipédia nous dit de tout ça. Donc les caractéristiques du Neketsu sont récurrentes. Le héros est un jeune garçon orphelin à la recherche du père. La recherche du père est un thème récurrent. Le héros a souvent une quête qu'il veut absolument réaliser, et ce quels que soient les obstacles. Il est foncièrement honnête et innocent. Il est doté de capacités ou pouvoirs hors normes. Il rencontre des amis dans sa quête, il lutte contre le mal, ses premiers adversaires deviennent généralement ses plus fidèles compagnons, il participe à un tournoi, il est sur le point de perdre, quand il est sur le point de perdre ou mourir, il se relève plus fort que jamais, etc., etc. J'avoue avoir un peu halluciné parce que je savais pas que c'était à ce point formalisé. Donc même si je l'avais largement constaté à travers mes différentes lectures de manga, pour ceux qui comme moi ont lu ou vu Dragon Ball, c'est-à-dire... l'immense majorité des rappeurs français aujourd'hui, ça devient un peu clair comme de l'eau de roche. C'est un peu comme les buddy movies avec ces films avec deux mecs qui peuvent pas se blairer au début et qui finissent super potes, et au milieu du film, il y a une explosion. Après, donc je finis là-dessus, mais on peut aussi mélanger le Neketsu à d'autres concepts genre le Bukatsu, et ça vous donne un manga pour garçons adolescents en quête personnelle, dans le sport, etc., etc. Mais revenons à My Hero Academia. Alors, on a affaire là à un shonen neketsu typique. Je crois que rien qu'en disant ça, je viens de passer un niveau au mode geek. En fait, si je dis ça, d'ailleurs, que c'est un shonen neketsu typique, normalement j'ai déjà perdu la moitié des potentiels lecteurs qui écoutent l'émission. En plus, un énième manga qui nous sert la même soupe, un grand méchant, on s'entraîne, on devient encore plus fort et encore un autre méchant, etc. J'en perds encore la moitié, quoi. Sauf que là, et c'est une des forces du manga, c'est qu'on démarre un peu dans ce schéma, mais My Hero Academia est loin d'être aussi répétitif. Et en fait, à chaque fois qu'il semble se dessiner un semblant de motif narratif, l'auteur prend le contre-pied. L'exemple le plus flagrant, c'est que les héros passent leur temps à perdre. Je vais pas trop spoiler, mais quand même, chaque victoire des héros est en demi-teinte, voire même en mode grosse lose. Et ça, c'est pas mal. En fait, cette histoire de contre-pied est assez importante dans My Hero Academia parce que ça se retrouve dans pas mal de niveaux dans le manga. Déjà, le monde dans lequel les personnages évoluent. Comme je l'ai déjà dit, c'est le contre-pied du monde là, Marvel. Après, au niveau des personnages aussi. Exemple, même si le personnage principal présente des traits de caractère propres à un héros de shonen de type Sangoku dans Dragon Ball, il est particulièrement fragile. Là où un Sangoku sera invincible, notre héros, lui, il donne un coup de poing et il se casse le bras. Et ça continue dans le contre-pied. Un manga shonen classique va concentrer son histoire sur un seul personnage et son équipe. Là, avec une dizaine de personnages maximum, là, on va avoir un nombre de personnages qui augmente de manière exponentielle. Rien que dans la classe du héros, ils sont 20, et l'auteur s'ingénie à tous nous les faire connaître. Bref, on a l'impression que l'auteur a fait un gros travail pour se dire « Je vais évoluer dans ce cadre, mais je veux aussi faire évoluer le cadre. » Et donc, ce qui n'a pas encore été fait en shonen, je vais essayer de le faire, et ça donne donc ces contre-pieds permanents qui font une bonne part de l'intérêt de ce manga. Et il y a aussi une dimension sur laquelle je souhaite insister, c'est le côté un peu, voire beaucoup, glauque du manga. En fait, je parle des méchants, parce qu'il y a des méchants quand même, hein, faut pas croire. Et là, en fait, le manga emprunte plus au seinen, c'est-à-dire au manga adulte qu'au manga pour adolescents classique. Le méchant est super flippant, vraiment, à chaque fois qu'il apparaît, moi, j'ai pas trop envie de le regarder, parce qu'il me fait flipper. Et tout ça participe à un côté triste, glauque et désespéré dans ce manga. Après, c'est pas non plus Dragonhead, dont j'avais parlé il y a quelques émissions, faut pas exagérer. Mais entre ces méchants tout glauques et le fait qu'ils passent leur temps à perdre, on a quand même affaire à une espèce de renouvellement dans le monde du manga shonen. Bien évidemment, il n'y a pas que des bons côtés. Moi, j'ai vu quelques faiblesses, que je retrouve d'ailleurs dans pas mal de mangas, la plus grande étant la non-lisibilité de l'action. Alors, c'est peut-être parce que je suis trop vieux, mais il y a des scènes de combat que je ne comprends pas du tout. J'ai beau lire la page, j'y comprends rien. La faute à une action quelquefois trop condensée et des personnages qui se ressemblent un peu trop pour un lecteur de manga moyen comme moi. Je trouve également que la gestion des multiples personnages n'est pas toujours bien menée. L'auteur introduit toujours du nouveau personnage, tout le temps. Mais bon, en même temps, ça apporte aussi quelque chose, donc on va dire que sur ce coup-là, ça s'annule. Bon, ça fait une longue chronique pour un qui ou quoi, mais j'ai bientôt fini. Parce que même s'il y a encore plein de choses à dire, alors le fait que My Hero Academia s'inscrit dans une nouvelle génération d'auteurs qui a été autant influencée par les BD contemporaines du monde entier que les classiques du manga, que le manga, en fait, il est le troisième manga le plus vendu en France. J'en lisais un il n'y a pas longtemps en attendant quelqu'un à Saint-Etienne, et une personne de mon âge, je tiens à le préciser, m'a interpellé pour savoir où j'en étais. Donc c'est que le truc commence quand même à être bien connu, il y a bien sûr un dessin animé qui a commencé, et puis en fait, je vous encourage vraiment à écouter ce podcast de 5ème de couve qui parle de My Hero Academia et qui invite l'éditeur français de My Hero Academia. On apprend plein de trucs sur le milieu de l'édition française, le milieu de l'édition du manga français, l'édition japonaise, etc. Je mettrai le lien sur la page Facebook de l'émission et sur le podcast de l'émission qui, j'en profite, sont accessibles depuis le site de Radio Dio. De toute façon, à la toute fin, My Hero Academia, donc c'est un bon manga sur son créneau et je le conseillerais sans problème. Je le conseille bien évidemment à n'importe quel enfant qui m'écoute, il doit bien en avoir un ou deux, et parce que pour ça, on est quand même pile poil dans la cible. Je le conseillerais aussi à n'importe quel adulte qui a été traumatisé par Dragon Ball et ou qui aime Bleach et autres fairy tales, ça fait déjà pas mal de monde. Je refais la blague, mais on est déjà sur 95% des rappeurs de France. Et d'ailleurs, je suis prêt à parier sur le fait que les rappeurs d'ici 5 ans feront des références à My Hero Academia. Mais bon, je m'éloigne du sujet. Pour les autres, c'est tellement codifié, ne serait-ce que parce que c'est un manga, qu'au premier abord, je ne sais pas s'ils arriveront à rentrer dedans. Mais en tout cas, qu'on se le dise, My Hero Academia, c'est cool. de retour dans Qui ou quoi. De retour dans Qui ou quoi, on vient de s'écouter Thank et le morceau Taxidermiste. Vous êtes toujours sur Radio Duo et on continue de chroniquer des bouquins. Donc moi, au début, quand j'ai préparé l'émission, j'ai cherché des livres pour enfants et des guides de voyage d'ailleurs. Et puis en fait, je suis passé rapidement à autre chose parce que j'ai commencé à lire My Hero Academia dont je viens de vous parler. Et puis je me suis dit, tiens, je fais une spéciale super-héros. Puis ça le faisait pas parce que j'aurais parlé que de BD et j'avais pas envie de parler que de BD. Je cherchais un guide de voyage et puis j'en ai pas trouvé. Alors j'ai ouvert des cartons chez moi et je suis tombé sur ma collection du magazine HK Orient Extrême Cinéma. Et là, tout m'est apparu simple et limpide, j'allais vous parler de livres qui trouvent leur source en Asie. Je vous rassure, je ne parlerai pas du guide du routard Chine, mais en attendant, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer avec vous cette fantastique revue qui était HK Orient Extrême Cinéma. HK Orient Extrême Cinéma était, et reste, le premier magazine sorti en France qui parlait exclusivement de cinéma asiatique, et en particulier de cinéma de Hong Kong, qui était encore une colonie britannique du moins jusqu'en 1997, et qui produisait à l'époque un cinéma vraiment hors norme. Ce cinéma hongkongais qui a eu une espèce d'âge d'or dans les années 80-90, avec des cinéastes comme John Woo, Tsui Hark et plein d'autres. Des cinéastes, des œuvres complètement inconnues du grand public, un cinéma de genre la plupart du temps complètement barré et à bien des égards frais, et surtout à des kilomètres du tout venant hollywoodien. Et ce magazine HK le documentait largement. C'est vrai qu'aujourd'hui, parler de cinéma de Hong Kong, ça semble complètement has-been. La production est rentrée dans le rang et la plupart des réalisateurs qui ont compté à cette époque ont essayé de percer à Hollywood et se sont complètement rétamés en tournant des bouses avec Jean-Claude Van Damme, voire Tom Cruise. Je rappelle que John Woo est responsable de Mission Impossible 2. Et ils n'ont jamais retrouvé l'aura ou l'importance qui était la leur à l'époque. Je me répète, mais c'est vraiment difficile de croire aujourd'hui que John Woo a fait des bons films. Je vous avoue que déjà à l'époque, c'était un petit peu dur de défendre ces films. Des films de kung-fu faits en 6 mois, et puis dire derrière qu'en fait c'était des chefs-d'œuvre avec plusieurs niveaux de lecture. Sur pas mal de films, en fait, ça revenait à dire qu'un film avec Jackie Chan était en fait aussi bien que Retour vers le futur. Sauf que c'est pas vrai. Dans les films de Jackie Chan, ils font des blagues sur des vélos où ils roulent sans selle. Bref, pour un film bien de Jackie Chan, genre Crime Story ou Drunken Master, combien il a fait d'adaptations de Nicky Larson en film. En fait, pour vous vendre un peu le truc, ce qui est intéressant, c'est que l'esthétique des films d'action d'aujourd'hui, elle a largement puisé sa source dans le cinéma hongkongais de l'époque. Des films comme Reservoir Dogs, Matrix ou Les Infiltrés ont tout pompé, mais je dis bien littéralement tout pompé, sur le cinéma hongkongais et n'existeraient pas sans lui. Et de fait, aujourd'hui, on aurait des films franchement différents. Et donc HK documentait cette période. Il revenait sur l'histoire de ce cinéma, donc ressortait des vieilles pépites du cinéma de kung-fu, des films de la Shaw Brothers. Il analysait avec le plus grand sérieux et une érudition poussée des films de kung-fu avec Jet Li. Chose encore aujourd'hui complètement improbable, où l'analyse d'un film se résume à des notes de spectateurs sur Allociné et à une liste ordonnée sur le site Sens Critique. Et puis la revue était véritablement classieuse, la maquette était hyper soignée, le papier d'une qualité hallucinante, quand je les touche encore aujourd'hui, ça me fait des frissons. Bref, vous allez croire que je suis fétichiste, autant d'éléments qui renforçaient le sérieux du propos. A noter qu'à partir du numéro 4, le magazine était vendu avec une VHS proposant un film de Hong Kong inédit et souvent anecdotique d'ailleurs. Le tout en VO et comprenant des bandes d'annonces originales. Bon là, vous avez maintenant une photographie complète du produit. Mais franchement, de me parler de tout ça, ça me semble tellement suranné. Une revue papier avec une VHS, autant de choses qui ont été complètement balayées par Internet. Aujourd'hui, un tel journal pourrait éventuellement prendre la forme d'un podcast, mais je n'ai pas encore trouvé de choses équivalentes, ni les archives en ligne d'ailleurs. En tout cas, je ne vais pas vous décrire par le long le sommaire des 14 numéros de la revue qui sont sortis dans les années 90, mais si vous avez toujours aimé le kung-fu, le polar et les films de sabre japonais, alors même si vous pouvez vous procurer le livre de Julien Sévéron qui s'appelle « Le cinéma enragé japonais » chez Rouge Profond, je vous encourage à essayer de trouver des numéros d'HK en brocante, sur le Bon Coin, ou je sais pas, vous pouvez même tenter le coup de m'écrire sur la page Facebook de l'émission, qui ou quoi, et puis on pourra toujours s'arranger. Une dernière chose à savoir, c'est que HK, la revue, en fait, était en partie créée par Christophe Gans, le réalisateur du Pacte des Loups, de Silent Hill et j'en passe, qui était un ancien du magazine Starfix et qui est un fan ultime de cinéma asiatique, ce qui se retrouve d'ailleurs largement dans sa filmographie. Bref, adossé à la revue, il y avait aussi une boîte d'édition de DVD qui, elle, existe encore et qui s'appelle HK Vidéo. Les films de HK Vidéo étaient d'ailleurs largement commentés dans la revue, mais bon, on va passer sur cet aspect un peu mercantile des choses parce que malgré tout, c'était vraiment intéressant et passionnant. Aujourd'hui, HK Vidéo existe encore, ils ne vendent plus que des DVD de réalisateurs asiatiques, mais c'est quasiment l'assurance d'avoir un bon film et des bonus d'un intérêt plus que certain qu'on aurait sûrement retrouvé sous forme d'articles si HK Orient Extrême Vidéo, la revue, existait encore. Bref, HK, la revue, est morte. Vive HK Vidéo. c'était l'Orchidée d'Hawaï avec Supply Frequencies. On est toujours sur Radio Duo 89.5, dans qui ou quoi, et on continue de parler de livres ce soir. Last but not least, j'ai beaucoup parlé de My Hero Academia et de HK. Résultat, j'ai plus beaucoup de temps pour vous parler de Poemotion de Takahiro Kurashima, paru chez Lars Müller Publications. En fait, ça m'arrange un peu parce que je sais peu de choses sur Takahiro Kurashima, à part que c'est un artiste et designer japonais né en 1970, et ça, bah, c'est écrit sur son site internet. Poemotion, c'est donc un recueil de ses œuvres. Et la particularité de ses œuvres, enfin de sa série de Poemotion, c'est que ce sont des œuvres en ombro-cinéma. Et c'est là que normalement vous me demandez, mais qu'est-ce que c'est que l'ombro-cinéma ? Mais comme je suis seul dans le studio, eh ben je vous l'explique sans que vous me le demandiez. Alors c'est un petit peu compliqué, l'ombro-cinéma c'est une technique ancienne d'animation qui consiste à dessiner des formes en plusieurs positions au même endroit, et ensuite on utilise un calque transparent hachuré qu'on passe sur le dessin, et en fait ça crée un effet stroboscopique qui provoque l'illusion du mouvement. Et cette illusion, c'est le maître mot. L'ombro-cinéma est une illusion d'optique particulièrement saisissante parce qu'elle bouge. Le genre d'illusion qui fait se dire qu'on ne peut vraiment pas faire confiance à ses yeux. L'ombro-cinéma est difficile à décrire. Je mettrai des vidéos d'exemples sur le Facebook de l'émission, toujours quand j'aurai mis le podcast de cette émission en ligne. Le procédé est utilisé dans des livres pour enfants, mais là, bon, c'est un livre pour adultes. Alors, c'est pas que les thèmes abordés par Takahiro Kurashima soient interdits aux moins de 18 ans. En fait, il n'y a pas d'histoire. Et que, en plus, je ne sais absolument pas s'il y a un message sous-jacent. C'est juste que, ça bouge et que ça plaira à tout le monde, quoi. Adultes comme enfants. Comme l'auteur et designer, dans le livre, en fait, on retrouve des formes en mouvement qui forment, en fait, d'une certaine... un peu comme si ça pouvait nous hypnotiser. D'ailleurs, si je le faisais pendant que je vous parle, je risque de m'auto-hypnotiser et de ne plus rien dire. Alors en fait, là, je suis super embêté parce que je me rends compte que, déjà quand j'ai préparé l'émission, j'avais prévu de prendre le livre et d'essayer de vous décrire la chose en direct. Parce qu'en fait, c'est un petit peu dur à écrire et je m'étais dit que j'allais improviser en vous écrivant le truc. Sauf que là, j'arrive à ce moment-là et je me rends compte que j'ai oublié le livre, La Grande Classe. Donc vous allez me croire, c'est un livre avec des formes qui bougent. Lars Müller Publication, et j'en avais déjà parlé la semaine dernière dans un livre qui s'appelait Face to Face. Donc c'est un éditeur d'art. Le livre est facilement trouvable. Apparemment, c'est un best-seller parce que le concept a été décliné dans 3 livres, Poemotion 1, 2 et 3. Je vous enjoins vivement à essayer d'y jeter un œil. Ma chronique est tombée un peu à plat parce que j'ai oublié le livre. Mais quand vous y jeterez un œil, vous verrez votre livre bouger. Et bon, si vraiment vous le trouvez pas, vous pouvez toujours chercher un livre pour enfants, pas du tout japonais, qui s'appelle New York en Pyjama Rama, au rayon jeunesse, et vous verrez au moins ce que c'est l'ombre chinoise, l'ombre au cinéma. L'émission touche à sa fin, j'avoue que je suis un peu dépité, ma fin d'émission tombe un peu à plat, mais bon, je vais quand même en profiter pour vous raconter encore un peu ma vie. En fait, quand j'ai commencé l'émission, j'avais un générique de fin de prévu, et j'avais commandé le disque, et qui n'est jamais arrivé, et aux joies, au bout de 16 émissions, je l'ai reçu cette semaine. Donc je vous fais la primeur, au bout de 16 émissions de qui ou quoi, d'entendre pour la première fois le vrai générique de fin que j'avais prévu au tout début de l'émission. En attendant donc d'écouter cet immense générique de fin, je vous rappelle les livres dont on a parlé. On a parlé du manga My Hero Academia, qui est très très bien. On a parlé de la revue HK Orient Extrême Cinéma, qui est bien aussi, mais qui n'est plus trouvable, mais que je vous encourage vraiment à essayer de feuilleter. Et d'un livre qui s'appelle Poémotion de Takahiro Kurashima. Un livre qui bouge. Bon, voilà, c'était qui ou quoi. À dans 2 semaines.